9h-10h, le mag de Plus FM.
Tout de suite, le mag de Plus FM présenté par Pascal Gaultier. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous. Alors chose promise, chose due, le mag de Plus FM vous aide ce matin à remplir votre déclaration de revenus 2014. Alors nous accueillons l'ordre des experts comptables de la région d'Orléans, son président Christophe Priem. Bonjour Christophe Priem.
Bonjour Pascal.
Et Coralie Cotineau qui est experte comptable à Blois. Bonjour Coralie Cotineau. Merci à tous les deux d'être parmi nous ce matin pour évoquer donc la déclaration de revenus 2014. Et c'est le premier round en quelque sorte d'une série d'événements destiné à aider le contribuable, puisqu'il y aura un autre événement, on va tout de suite en parler, c'est le 12 mai, Allo Impôt à la mairie de Blois.
Tout à fait Pascal, donc c'est la quatrième année que l'Ordre des experts comptables organise cette manifestation Allo Impôt pour aider les particuliers à remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Donc bien évidemment, cette opération se décline sur toute la région d'Orléans, puisque je vous rappelle que l'Ordre des experts comptables n'est que sur 4 départements comparativement à la région centre où on a 6 départements. Donc on fait l'opération sur Blois, sur Orléans et sur Bourges. Donc le 12 mai à Blois, donc à la salle des mariages, où la ville nous met gratuitement à disposition sa salle. Et donc on attend nombreux les particuliers pour les aider à remplir leur déclaration d'impôt.
Oui, mais les experts comptables s'adressent normalement plutôt aux professionnels. Donc là, c'est une sorte d'altruisme fiscal, en quelque sorte.
Non, c'est pas de l'altruisme fiscal, puisque depuis la directive service du 23 juillet 2010, le monde des particuliers s'est ouvert aux experts comptables. Et donc, les experts comptables peuvent travailler maintenant avec les particuliers et les aider à faire, entre autres, leur déclaration fiscale.
Voilà. Donc, et là, on est en pleine période. Hein, là.
On vient de recevoir les déclarations, Pascal. D'ailleurs, vous avez dû recevoir votre belle imprimée bleue.
Bah oui.
N'est-ce pas?
La déclaration pré-remplie, etc.
Et donc, maintenant, il faut la remplir et la retourner au centre des impôts.
Oui, parce que ça plaise ou non, on ne peut pas y échapper. Hein, c'est la figure imposée du printemps, la déclaration de revenus.
On peut essayer, mais en général, ça se passe mal. Ouais. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on a jusqu'au 19 mai pour la déclaration papier et nous avons jusqu'au 2 juin pour le faire par internet puisque pour les gens du Loir-et-Cher c'est le 2 juin.
Ouais, donc et ça se développe ça de plus en plus la déclaration en ligne.
Tout à fait puisque statistiquement aujourd'hui il y a presque la moitié des gens qui envoient leur déclaration d'impôt par internet.
Tout le monde a dû recevoir sa déclaration de revenus donc par courrier.
Pas forcément. Puisque les gens qui ont rempli l'année dernière leur déclaration d'impôt sur le site impots.gouv.fr avaient la possibilité d'éviter de recevoir la déclaration papier et de le faire directement sur Internet. C'est développement durable.
Qui a intérêt à remplir sa déclaration papier? Qui a intérêt éventuellement à le faire en ligne sur Internet? Tout dépend de la complexité peut-être un petit peu du foyer fiscal.
Pas du tout, non, c'est plus une facilité, parce que sur Internet, on n'a pas l'obligation de joindre les justificatifs, même si sur la déclaration papier, maintenant, on n'a plus l'obligation de joindre tous les justificatifs. Et puis, c'est plus simple sur Internet, parce que si on se trompe, on peut venir remodifier la déclaration, et changer les cases et refaire le calcul tout de suite sans avoir à refaire la déclaration papier complète, puisque ne serait-ce que la déclaration papier toute simple, il y a plus de 200 cases dessus qui peut être rempli.
Pourtant, on a entendu parler de simplification. Donc, c'est pas encore complètement le cas.
Si, c'est la simplification. Mais si j'étais un peu taquin, vous me connaissez, Pascal, je dirais que c'est une simplification pour l'administration fiscale, pas forcément pour le contribuable ou les conseils qui doivent remplir les déclarations.
Alors, donc, ce matin, on va finalement pas se substituer, disons, compléter l'administration fiscale et s'adresser donc au grand public. Coralie Cotineau, quels conseils, effectivement, d'abord, peut-on donner aux gens pour prendre le dossier par le bon bout? Voilà, on se retrouve face à sa feuille, pour ne pas commettre d'erreur d'impair, avant de rentrer tout à l'heure, évidemment, dans les détails et différents aspects.
Alors tout d'abord, il est important de cibler le foyer fiscal, de bien réfléchir au rattachement qu'il est possible de faire dans ce foyer, notamment dans le cadre d'imposition commune ou séparée. C'est notamment un sujet important. Nous avons une obligation d'imposition séparée dans certains cas, notamment lorsque les conjoints mariés ou pacsés sont sous l'origine de la séparation de biens et ne vivent pas ensemble. Eh bien là, c'est une obligation d'imposition séparée des conjoints. Chacun déclare de son côté ses propres revenus. Mmh. On a ensuite un second cas, lorsque les conjoints sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qui sont autorisés par le juge surtout à résider séparément. C'est un deuxième cas d'imposition séparée des revenus.
Mmh. Donc premier critère enfin de bien examiner sa situation familiale en quelque sorte. Où est-ce qu'on
exactement.
En est quoi. Donc,
exactement, exactement. Et puis on a certains cas où il est possible d'opter pour une imposition commune ou séparée, c'est notamment dans le cadre du changement matrimonial. Lorsque vous vous mariez ou vous vous paxez, notamment au cours de l'année 2014, normalement, vous êtes imposé de manière commune, mais vous avez l'option qui est possible pour une imposition distincte. Donc là, le calcul est à faire. Il ne faut pas faire ça à la légère, mais le calcul est à faire pour savoir s'il vaut mieux déclarer de manière commune ou séparée, parce qu'on peut en tirer un avantage.
Alors justement, et ce calcul, ces simulations, peut-être elles seront filigranes de toute la matinée. Il y a des outils, effectivement, pour calculer.
Alors sur le site impots.gouv.fr, il y a des outils disponibles pour faire ce calcul, ou sinon vous pouvez vous adresser à un conseil, qu'il soit expert comptable ou votre partenaire financier, partenaire bancaire. Nous avons les outils à disposition pour optimiser votre impôt et faire les calculs nécessaires.
Quand on parle de foyer fiscal, on peut parler d'une seule personne en même
exactement.
Temps. Voilà,
exactement.
Parce que foyer,
une personne
souvent,
seule, célibataire.
Ça évoque une famille, hein, voilà. Par exemple, avec des enfants. Ça peut être une seule personne.
C'est ça, tout à fait. Ça peut être une seule personne, la personne célibataire, sans enfant, qui fait sa déclaration seule, sans aucun...
Voilà. Ce qui voilà. peut exister. Donc, ouais, cette notion de foyer fiscal est importante puisque, en fonction des événements au cours de la vie du couple ou du foyer, il faut peut-être calculer si on a plus intérêt à rattacher les enfants ou à les laisser en imposition distincte.
Donc, voilà. Alors,
c'est la première chose déjà avant de parler chiffres. C'est de vérifier la composition de son foyer fiscal et de voir s'il est toujours bien adapté. Une meilleure optimisation.
Voilà, parce que parfois, on peut avoir intérêt à déclarer ensemble ou déclarer séparément, que l'on soit célibataire, paxé ou même marié. Donc,
lorsqu'on est marié ou paxé, nous avons l'obligation de faire la déclaration commune, sauf l'année de réalisation du pax ou du mariage, où là, il y a une option possible pour une imposition distincte.
D'accord.
Mais sinon, quand on est marié, que l'on vit ensemble, c'est une déclaration commune.
Et il n'y a pas plusieurs déclarations à faire, c'est-à-dire pendant la période durant laquelle on était encore célibataire et la période où ensuite...
Alors ça a changé il y a quelques années. Avant, on réalisait 3 déclarations. Une déclaration séparée chacun de son côté du 1er janvier jusqu'à l'année du mariage ou du pax, et ensuite une déclaration commune. Mais ça, c'est fini. Maintenant, c'est soit déclaration commune pour toute l'année, ou déclaration séparés pour toute l'année. Il faut faire attention, l'année d'un divorce ou de rupture de pacte, c'est obligatoirement imposition séparée, déclaration séparée. Pas d'option possible pour la
bon,
pour
ça, communauté. C'est un progrès, là. Ça va dans le sens quand même de la simplification.
Je ne suis pas sûr que ça va dans le sens de la simplification, puisque si c'est de la simplification en termes de déclaration...
Oui, pour l'administration fiscale.
Mais en termes d'optimisation fiscale, c'est nettement moins bien pour le contribuable, parce que les gens qui avaient des revenus moyens l'année où ils se mariaient, ou malheureusement l'année où ils divorçaient, quand ils avaient 3 déclarations d'impôts à faire, en général, ils n'étaient pas imposables. Alors que maintenant, avec le nouveau système qui est mis en place depuis 3-4 ans, on passe à la case impôt.
On insiste là-dessus, mais en fait, c'est un peu le cœur, finalement, de la déclaration pour le grand public, la situation personnelle, la situation familiale. Parce que là, on a évoqué des couples, mais après, alors il y a des couples qui s'unissent, se séparent, et puis il y a des enfants qui naissent, heureux événements, il y a des enfants qui s'en vont aussi, parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils entrent dans la vie active, parce qu'ils ont vieilli, grandi, et donc là, il faut tout cela aussi, il faut bien l'examiner.
Tous les ans, il faut remettre à plat, oui, ce système de foyer fiscal, puisque cette option, elle se prend chaque année quand on fait la déclaration, et si on a plus intérêt l'année d'après, par exemple, si on a un enfant majeur qui poursuit ses études, on peut le rattacher et bien sûr déduire une pension alimentaire qu'on lui verse, mais on peut peut-être dire non, on va le rattacher puisque c'est plus avantageux pour nous. Donc c'est année par année qu'on fait ces choix.
Alors justement, les règles de rattachement des enfants au foyer fiscal des parents.
Alors plusieurs cas, évidemment, de figure. Hein. En général, quand les enfants sont célibataires et sont mineurs en moins de 18 ans, ils sont à 95% rattachés au foyer fiscal avec les parents. Hein. C'est le même principe en cas de PACS ou de mariage, hein, puisque maintenant c'est similaire en termes d'imposition fiscale. On peut, alors après, en cas de séparation, il faut justifier de la garde. Et donc après, on le déclare, on le rattache à son foyer fiscal. Alors, petite nouveauté, puisque maintenant il y a la résidence alternée.
Oui.
Donc, s'il y a une résidence alternée qui est bien déterminée, on a droit à la moitié de la part chacun pour l'éducation de l'enfant, puisqu'on l'a une moitié de l'année à sa charge.
Un enfant égale une part fiscale ?
Non, une demi.
Une demi-part.
Et une part au bout du troisième. Voilà. Ça n'a pas changé. Après, on a les enfants qui atteignent 18 ans en cours d'année. Donc ça, c'est toujours le cas problématique. Donc soit on peut rattacher l'enfant mineur et l'inclure dans la déclaration des revenus du foyer fiscal. Et donc si jamais l'enfant travaille, eh bien, évidemment, il faudra rajouter ses revenus sur la déclaration du foyer fiscal. Ou sinon, on peut décider de laisser l'enfant seul. Il déclarera tout seul ses revenus. Ça peut peut-être avoir un avantage s'il veut rentrer dans la vie active pour pouvoir bénéficier d'allocations, logements et de bénéficier d'exonérations, par exemple, de taxes d'habitation.
Les fameuses APL et voilà, les choses comme ça. Donc là encore, il y a un calcul.
Voilà. Il y a un calcul à faire. Et comme pour les enfants qui sont âgés de plus de 18 ans, puisqu'on peut rattacher ces enfants jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études supérieures. Donc après, c'est un calcul. Soit on les rattache au foyer fiscal et on bénéficie de la demi-part, ou soit ils peuvent faire leur imposition distincte et on peut déduire la pension alimentaire qu'on leur verse, puisque en général, s'ils ne sont pas rattachés au foyer fiscal, ils font leurs études loin des parents et donc il y a un logement,
la
nourriture.
Il n'y a peut-être pas de généralité, mais tant que l'enfant est étudiant, souvent il a intérêt à rester rattaché au foyer fiscal de ses parents qui le prennent en charge. Pas forcément.
Pas forcément. S'il vit sous le toit du foyer fiscal de ses parents, il a de fort intérêt à être rattaché. Mais s'il fait ses études, par exemple à Tours ou à Orléans, il a besoin d'un logement et une pension pour la nourriture. La demi-part est souvent moins avantageuse que la pension qui est versée à l'enfant étudiant pour assumer sa scolarité.
Voilà, donc ça c'est important parce qu'effectivement là c'est le bouleversement dans la famille, un changement dans la composition de la famille. Alors on parle de déclaration de revenus, hein, donc à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter d'important sur effectivement cet aspect situation familiale qui est un peu le premier chapitre hein, ce matin. Donc on parle de revenus imposables, mais au fond c'est quoi les revenus imposables? Il n'y a pas que les salaires, il n'y a pas que les traitements.
Non, il n'y a pas que les traitements et salaires. Ça, c'est pour les gens qui sont actifs et qui ont un revenu en tant que salariés. Mais on a aussi les gens qui ont une activité professionnelle, donc les artisans, les commerçants, on appelle ça les bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Les BNC, les bénéfices non commerciaux, c'est toutes les professions libérales, les notaires, les avocats, les experts comptables. Donc tout ça rentre dans les revenus. Il y a aussi les revenus qu'on peut avoir au titre des revenus fonciers si on fait du locatif, si on a des appartements ou des maisons qu'on loue. On peut avoir aussi des revenus de capitaux mobiliers si on est un chef d'entreprise ou si on a des actions en bourse. On peut être soumis aux revenus des capitaux mobiliers sous la forme de dividendes. Donc il y a plein de revenus qui sont imposables.
Et tout ça, il faut le déclarer.
Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des exceptions et des exonérations. Par exemple, quand on est apprenti, on a un seuil à partir duquel on est seulement imposable. Donc de mémoire, ça doit être aux alentours de 12 000 euros. En dessous de 12 000 euros, on n'est pas imposable, on n'a pas à déclarer les revenus. Donc tout ça, c'est du cas par cas. Donc il faut venir consulter un expert comptable le 12 mai si on a des doutes, ou aller au centre des impôts pour qu'il puisse vous renseigner.
Justement, il y a quelques revenus qui sont exonérés d'impôts, qui échappent à l'impôt, mais il n'y en a pas beaucoup.
Très peu, très 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 peu. C'est pas des revenus qui échappent à l'impôt. C'est des revenus qui bénéficient d'une décote ou d'un plafond à partir duquel on sera imposé. Sinon, tous les revenus sont imposables.
Voilà.
Ça se saurait, sinon.
Voilà. Il ne faut pas en oublier.
C'est mieux.
Ouais, c'est mieux. Hein.
C'est mieux, oui.
effectivement. Alors, donc on va évoquer cette déclaration. Comment remplir cette déclaration? Parce que vous venez de citer un certain nombre de revenus qui complexifient, j'imagine, aussi toute cette déclaration. Bon, il y a une déclaration simplifiée, parfois des revenus, etc. Tout va bien. Bon, enfin, bon, vous avez cité un certain nombre de revenus. Et là, faut remplir les bonnes cases. Faut pas les oublier.
Faut pas les oublier. En effet, puisque aujourd'hui, avec la dématérialisation, on a les traitements et salaires, les pensions et rentes qui sont pré-imprimées sur la déclaration d'impôt. Il en est de même pour ce qu'on appelle les revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire les gens qui ont des placements au titre de l'assurance vie ou d'autres, des PEL, des choses comme ça, où les banques calculent les intérêts et envoient à l'administration fiscale les montants à déclarer. Donc ça, en général, c'est pré-imprimé.
C'est la banque qui fait le travail.
C'est la banque qui fait le travail. Comme les entreprises, comme l'employeur, envoie à l'administration fiscale ce qu'on appelle dans notre jargon la déclaration annuelle des salaires. On l'envoie à l'administration qui reprend les éléments pour les pré-remplir, ce qui évite déjà des erreurs. Et par contre, tous les autres revenus au titre des revenus fonciers, des investissements celliers, du flot, Pinel, puisqu'à chaque fois qu'un ministre du logement passe, comme vous avez pu constater, on a une loi.
Il y en a.
Voilà, on a eu Robien, on en a eu plein. Et donc ça, par contre, il faut que le contribuable remplissent de façon très complète sa déclaration. Et puis après, on a toutes les aides, les charges déductibles qui sont pas pré-remplies. Par exemple, pour les aides à domicile, si on emploie une femme de ménage, si on est une personne âgée et qu'on a quelqu'un qui vient nous aider chez soi, il faut pré-remplir la case. On a les dons qu'on fait à des organismes, toutes ces parties-là, tous les crédits d'impôt, le crédit d'impôt compétitivité emploi qu'il faut remplir aussi dans la déclaration. Donc on a, après, il y a beaucoup de cases à remplir, il y a beaucoup de particularités.
On pourra peut-être y revenir, hein, oui. D'ailleurs, finalement, comment réduire son impôt sur le revenu. Donc, les revenus fonciers, donc c'est un petit peu à part d'après ce que vous dites. Hein.
C'est une déclaration.
Là, il y a une traçabilité du contribuable qui est totale grâce à l'employeur, grâce aux établissements bancaires, mais les revenus fonciers, donc là, c'est...
C'est du déclaratif de la part du contribuable, et il faut faire une déclaration qui s'appelle dans notre jargon la 2044, qui est une déclaration spécifique pour les revenus fonciers. Alors, il y a deux régimes. Si ce qu'on appelle le micro-foncier, c'est-à-dire que si l'ensemble des recettes de vos revenus fonciers n'excède pas 15 000 euros, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle le régime du micro-foncier. Vous déclarez le montant des recettes que vous avez, des loyers que vous avez perçus, de tous les biens que vous avez, et il y a un abattement forfaitaire de 30% qui est fait. Ou alors, si vous avez plus de 15 000 euros, vous avez l'obligation d'être au régime du réel, ce qu'on appelle, et donc c'est de déclarer tous les revenus, et vous pouvez déduire quelques charges, les frais d'assurance, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les travaux que vous faites.
Donc ça concerne tous les propriétaires.
Voilà.
Ouais.
Mais par contre, c'est toujours le même problème qu'on voyait tout à l'heure pour le foyer fiscal. Pour les revenus fonciers, vous avez peut-être aussi intérêt, si vous êtes en dessous des 15 000 euros, à opter pour le réel pour une période de 3 ans, parce que vous allez avoir des frais d'entretien et de rénovation et des intérêts d'emprunt importants qui vont être plus importants que les 30% prévus sur le micro-foncier, puisque 30% de 15 000 euros, ça fait 4 500 euros. Si on achète un bien qui a un peu de valeur, où il y a des travaux, on aura peut-être plus que 4 500 euros de frais à déduire, donc il faut aussi faire le calcul.
Ouais, en fait, il y a toujours plusieurs hypothèses, quoi. Faut toujours avoir la calculette ou un bon expert comptable, donc voilà. Avec soi, quoi. Donc,
faut toujours avoir son expert comptable en poche.
Ouais, indispensable. Hein.
Indispensable.
Donc, bon, on en connaît des bons, hein. Donc, de toute façon, et l'ordre des experts comptables, l'argent d'Orléans a toute la liste, hein. Donc, naturellement.
Pas de souci.
On va marquer une première pause, hein. Voilà, on a déjà eu un certain nombre d'informations, mais c'est bien parce que là, vous nous guidez un petit peu, donc, dans cette tâche qui est obligatoire et on redonnera les délais, hein, donc c'est mai ou juin pour ceux qui déclarent en ligne,
Internet.
Mais donc c'est le moment, hein, donc à tout de suite.
Plus FM, la radio que j'aime.
Le plein tube, le plein d'infos. Oh.
Plus FM. Du 1er au 10 mai, retrouvez la literie blésoise sur la foire de Tours. Hall A, allée L, stand 7. La literie blésoise, c'est aussi un hall d'exposition ouvert toute l'année, 136 route nationale à Saint-Gervais-la-Forêt, à côté de Patapin.
La consommation moyenne de papier par un Français est estimée à 60 kg par an. C'est aussi le premier consommable des bureaux. Valeco, engagé dans la prévention des déchets, préconise l'achat de papier recyclé ou écolabellisé et d'optimiser les consommations de papier en écrivant systématiquement sur les deux côtés de la feuille. Limitons nos impressions, privilégions pour nos communications l'envoi de mails et l'archivage électronique de documents. Puis, pensons à bien trier nos papiers pour favoriser le recyclage.
Pour votre impôt sur le revenu, faites confiance à un expert comptable. Consultation fiscale gratuite le 12 mai 2015 de 8h30 à 19h. Rendez-vous à la mairie de Blois, salle des mariages, place Saint-Louis. Les experts comptables vous conseillent. Toutes les informations sur www.expert-comptable-orléans.fr.
Vendredi 22 mai à 21h, Électrophase en concert à Olza Jazz, les Lobbies à Blois. Réservation au 02 54 44 41 80. Olza Jazz, les Lobbies, 12 avenue Monory à Blois.
Vous avez entre 50 et 74 ans, homme, femme, n'hésitez plus. Le nouveau test de dépistage du cancer colorectal est encore plus simple et il est gratuit. Remis par votre médecin traitant, il ne nécessite plus qu'un seul prélèvement, non douloureux, à faire chez soi. Le cancer colorectal est en France le troisième cancer le plus fréquent, le deuxième le plus meurtrier. Dépisté à temps, il est guéri 9 fois sur 10. Vous vous posez des questions? Demandez conseil à votre médecin traitant ou consultez l'ADOC 41, Centre de coordination et de dépistage des cancers, au 02 54. 43 54 05 ou www.dépistage-cancer.fr. Le dépistage du cancer colorectal, un geste simple qui peut vous sauver la vie.
Découvrez un univers de détente et de bien-être. Découvrez l'univers Balnéo Agglo, un moment rien que pour vous. Évacuez les tensions, relaxez-vous dans un espace privilégié. L'univers Balnéo Agglo, un lieu unique pour une remise en forme en douceur. Prolongez ce moment de détente dans le calme sur un transat de la terrasse Solarium. L'univers Balnéo Agglo, détente et bien-être, 30 avenue Pierre Brossolette à Blois. Plus d'infos sur le www.agl-eau.fr.
Entrez dans l'imaginaire des caves Montmousseau et découvrez les caves en famille ou entre amis lors d'une visite guidée ou d'une visite libre. Unique et surprenant, vous pénétrez dans l'univers fantastique de la cave aux lumières avec une vision inédite des châteaux de la Loire. Puis continuerez votre visite dans l'univers authentique de nos caves de vieillissement qui abritent des millions de bouteilles. Ouvert tous les jours à Montrichard, plus d'infos sur le www.montmousseau.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Samedi 9 mai après-midi, démonstration sculpture avec Yves Nick et initiation pour enfants.
Plus FM.
Le mag de la vie quotidienne sur Plus FM.
Le mag de la vie quotidienne consacré ce matin à la déclaration des revenus 2014. Hein. Enfin bon, ce sont des revenus que l'on déclare en 2015, mais ce sont bien 2014. Tous les revenus de 2014 en compagnie de deux invités. Christophe Priem, qui est le président de l'Ordre des experts comptables de la région d'Orléans, et Coralie Cotineau, qui est experte comptable. Merci de passer cette matinée en notre compagnie, pour donc donner un peu le mode d'emploi d'une déclaration de revenus donc convenablement remplie, c'est important. Hein. Donc alors on parlait de déclaration, c'est très déclaratif hein, en fin de compte tout cela.
C'est la France, Pascal. Ouais. On est dans un pays où on déclare beaucoup, mais c'est le passage obligé de toute façon pour tout pays de collecter les impôts et donc on est obligé chaque année de faire cette déclaration d'impôts. Qui est obligatoire, comme vous le dites, mais qui permet de recenser les revenus. Alors, je tiens à préciser aussi que les gens qui sont à l'étranger et qui ont des revenus en France sont soumis à l'impôt français, puisqu'on est imposable du moment où on retire une activité économique dans le pays auquel on récupère ses recettes, même si on est domicilié en Suisse, au Luxembourg. Je dis ça par hasard.
Ouais. Puis là, faut des experts comptables internationaux, alors, hein. Donc, voilà. Mais faut faire attention. Faut pas tricher, hein. Donc, on peut se faire prendre et donc, voilà. Et ce matin, vous ne donnerez pas d'astuces. En plus, vous les connaissez pas.
Hein. Non.
Voilà. Alors, on a évoqué au cours de la première partie pas mal de choses, hein, sur la situation familiale, qui est extrêmement importante, évidemment. Donc, la situation conjugale, les enfants, les revenus qui sont imposables, les salaires, mais pas seulement les salaires, les revenus des placements financiers, les revenus fonciers. Juste un mot sur les frais professionnels, et après on va parler effectivement des réductions d'impôts et crédits d'impôts. Comment déduire les frais professionnels? Comment ça se passe, Coralie Cotineau?
Alors, les frais professionnels, c'est déjà une première piste d'optimisation fiscale. Il faut savoir que l'administration fiscale ne vous impose pas sur 100% de votre revenu imposable, revenu salarié, on parle.
Il y a des abattements.
Voilà, il y a un abattement forfaitaire qui est fait de 10%. Mais il s'avère qu'on peut déduire les frais professionnels réels si cela dépasse cet abattement forfaitaire de 10%. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut avoir intérêt à le faire. Et il faut savoir que cette déduction de frais réels englobe un certain nombre de choses. Ça peut être les frais supplémentaires de repas pour le déjeuner. Cela peut être
par exemple, pour ceux qui ne peuvent pas normalement
rentrer chez eux. Pour ceux qui travaillent à une certaine distance de leur domicile, on peut déduire le montant des frais supplémentaires de repas. Donc selon un forfait qui est défini par l'administration fiscale ou en fonction des frais réels, si on peut en apporter la justification par des factures, notamment. On peut déduire aussi dans le cadre de ces frais réels les frais de route, donc c'est-à-dire les kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail. Donc toujours selon un barème fiscal qui est publié par l'administration et qui est plafonné à 7 chevaux, notamment pour les véhicules.
Mais les frais de route, c'est vraiment pour ceux qui ont de la route, par exemple? Tous les jours?
Pas forcément, en fait, ça dépend du montant du revenu. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne travaille pas de manière très éloignée de son domicile, mais qui a un faible revenu, enfin du moins un revenu moins important au niveau du SMIC, par exemple, qui peut avoir intérêt à déduire ses frais de route, ses frais réels, même s'il ne travaille pas à 30 km de son domicile.
Parce que tous ces frais que vous êtes en train de décrire peuvent être plus importants que les 10%
que
d'abattement.
C'est ça. Et généralement, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que les frais de route qui peuvent être déduits. On peut déduire, par exemple, les frais engagés pour acheter un uniforme qui est obligatoire dans le cadre de son travail ou, petit exemple, ou des chaussures de sécurité. Si on vous impose l'achat de chaussures de sécurité, c'est déductible dans le cadre des frais réels. Il n'y a pas que les frais de route, les frais de repas. Il y a aussi les frais d'habillement quand ils sont nécessaires pour l'activité professionnelle. On peut avoir aussi si on vous impose d'acheter du matériel informatique ou si c'est nécessaire à la réalisation de votre travail, ce genre de dépenses peuvent être déduites.
Mais il faut les justificatifs.
Voilà, il faut les justifier.
Il faut garder donc toutes les factures.
Ah, il faut garder toutes les factures. Donc, vous détaillez sur papier libre vos frais réels que vous avez déduit, sans joindre les justificatifs, mais sur demande d'administration, il faudra justifier tout ça par les cartes grises, pour les kilomètres parcourus, les factures de matériel, etc.
Il faut les garder combien de temps, ces justificatifs
Donc normalement, l'administration fiscale peut revenir 3 ans en arrière lors des contrôles. Donc c'est un minimum de 3 ans, mais généralement, on conseille de les garder un petit peu plus.
Voilà. Donc parce que l'administration fiscale peut un jour faire un contrôle et dire, voilà, montrez-moi sur les 3-4 dernières années, tous les justificatifs, les notes de restaurant, les notes d'essence, des choses comme ça.
Exactement, notes de restaurant, des factures d'entretien du véhicule, pour justifier du kilométrage du véhicule en début et fin d'année, par exemple, ça peut être fait par une facture d'entretien.
Donc ça, c'est vraiment un calcul à faire.
Ah, ça, c'est le premier calcul à faire quand on est salarié. C'est savoir si on abat de 10% l'abattement forfaitaire ou si on peut faire les frais réels. Ouais. C'est l'un des premiers calculs à faire quand on est salarié.
Bon, ça c'est très très important parce que ça concerne évidemment
tout le monde.
Donc c'est un calcul, quel que soit son revenu.
Quel que soit son revenu, il faut faire le calcul. Alors bien entendu, quand on a des revenus assez élevés, vu que la limite est de 40 km, sauf cas très exceptionnel, la limite est de 40 km pour les frais de route entre le domicile et le travail. Bon, passé un certain revenu, ça n'a plus d'intérêt même de faire le calcul. Mais en tout cas, pour le Français ayant des revenus moyen, c'est un calcul à faire.
Il y a beaucoup de gens du Loir-et-Cher qui prennent le train également pour aller travailler à Tours, à Orléans, à Paris. Ça rentre évidemment dans les frais professionnels, on imagine ça.
Si vous pouvez justifier de l'éloignement justement qui dépasse les 40 km, oui. Si vous pouvez justifier cet éloignement obligatoire.
Ils prennent le train tous les jours.
Tout à fait.
Bon, ça c'est quelque chose de très important. Alors on va évoquer maintenant les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. C'est-à-dire comment réduire, comment adoucir, alléger l'ardoise, hein, en quelque sorte. Donc, quels sont les principaux dispositifs pour réduire son impôt ?
Alors, il est important chaque année d'essayer d'identifier les dépenses qui peuvent ouvrir droit à des réductions de crédit d'impôt parce qu'il en existe un certain nombre. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des conditions à respecter, donc surtout bien se faire conseiller et bien regarder si on rentre dans le cadre des dispositifs parce que généralement, ce ne sont pas des dispositifs très simple. Donc on a un premier dispositif qui est l'emploi d'un salarié à domicile. Il faut savoir que quand vous employez un salarié à domicile ou une association ou une entreprise agréée, vous pouvez bénéficier d'un crédit ou d'une réduction d'impôt en fonction de la situation du contribuable qui est de 50% des dépenses réalisées. Donc ensuite, par contre, c'est complexe. On a des plafonds en fonction de la nature des dépenses, si c'est pour des travaux de jardinage ou des travaux de ménage, etc. C'est pas les mêmes plafonds. Donc là, il y a quand même une complexité. Mais en tout cas, dès lors que vous faites intervenir quelqu'un à votre domicile, pensez à regarder si vous rentrez dans le cadre de ce crédit ou de cette réduction d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première.
Le prestataire peut nous l'indiquer, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, généralement, c'est indiqué sur les factures. Et en fin d'année, ils vous fournissent une attestation fiscale que vous pourrez fournir à l'administration fiscale en cas de demande.
Voilà. Et ça viendra en réduction de la déclaration, pas de l'impôt à régler.
Alors, la différence, c'est que en fonction de crédit ou réduction d'impôt, le crédit d'impôt, si toutefois il dépasse l'impôt qui était à régler, on vous rembourse le différentiel. Vous aviez un impôt de 1 000 euros à régler. Vous avez le droit à 1 500 euros de crédit d'impôt. On vous rembourse le différentiel de 500 euros. Quand c'est une réduction d'impôt, tout ce qui dépasse l'impôt initial à payer est perdu en quelque sorte pour ce type de dépenses.
Voilà. Donc, alors, tout ce qui concerne les services à la personne, services à domicile.
Voilà, c'est ça, services à domicile. Après, il faut un petit peu creuser, savoir quels sont les plafonds et puis si on rentre bien dans le cadre. Mais en tout cas, en règle générale, lorsqu'on emploie un prestataire ou un salarié à domicile, on peut avoir le droit à cette déduction fiscale.
Parce que, Pascal, on parle de simplification administrative, mais juste à titre anecdotique pour l'emploi d'un salarié à domicile, puisque Coralie parle des différents plafonds, c'est par exemple 5 000 euros par an pour les petits travaux de jardinage, 3 000 euros par an pour l'assistance informatique et Internet, 12 000 euros pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc c'est quand même un petit peu, c'est un peu le maquis de ces crédits d'impôt, il faut quand même bien être attentif. Et surtout, ce qu'il faut
penser... C'est pas mal, quand même. 5 000 euros pour les travaux de jardinage, il y a de quoi faire dans le jardin, quand même. Hein.
Il y a de quoi faire dans le jardin, je suis d'accord avec vous, Pascal. Mais il faut faire attention, parce que quand même, l'administration fiscale a mis un petit bémol à tout ça. C'est au-delà de l'emploi des salariés à domicile, Coralie va parler des autres crédits d'impôt et réductions d'impôt, mais on a un plafond global de toutes ces dépenses qui ne doit pas excéder 10 000 euros par an de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt.
Voilà,
donc ne faites pas trop de travaux de jardinage
et d'informatique.
Alors calculez bien, parce que au-delà de la réduction et du crédit d'impôt, si ça dépasse les 10 000 euros...
Oui, après c'est...
C'est perdu et gagné pour... Ça dépend dans quel sens on se trouve.
Oui, donc il y a un moment, il faut prendre sa tondeuse soi-même, quoi.
Voilà.
Voilà, donc on a bien compris. Donc c'est important. Les frais de garde d'enfants aussi.
Alors ça concerne quand même un certain nombre de Français, puisque dès lors que vous employez une assistante maternelle, vous avez le droit à un crédit d'impôt dès lors que votre enfant a moins de 6 ans au 1er janvier. Donc c'est 50% des dépenses dans la limite de 2300 euros par an par enfant. Voilà. Sous déduction, bien sûr, des aides qui auraient pu être perçues par la CAF et le Pajemploi emploi dans le cadre des gardes d'enfants. Mais ça c'est une déduction qui concerne bon nombre de Français parents de jeunes enfants.
Bah oui, c'est important. Ça, c'est pour encourager, j'imagine.
Pour encourager à tout simplement travailler déjà et employer des assistantes maternelles, tout simplement.
Bon, voilà, donc ça c'est important. Les dons, les fameux dons, parce qu'on sait que beaucoup de gens font preuve de générosité pour des associations caritatives, la liste est très longue. Donc voilà, comment ça se passe? Parce que souvent on nous dit, mais il y a des réductions fiscales après.
Alors, vous pouvez avoir le droit à un crédit ou réduction d'impôt au titre des dons qui sont effectués à certaines associations, parce que ce n'est pas n'importe quelle association. Il faut que ce soit des associations qui aient reçu un agrément pour bénéficier de déductions fiscales. Donc, ce sont des associations d'intérêt général, d'utilité publique. Ça peut être aussi les dons aux partis politiques. Mais surtout, ce ne sont pas les dons faits à n'importe quelle association. Il faut que l'association ait reçu un agrément. Et généralement, et c'est même systématiquement, lorsque ça rentre bien dans ce cadre, vous avez un imprimé qui est fourni par, par l'association pour vous permettre de bénéficier de cette réduction d'impôt.
Elle est importante, cette réduction d'impôt, quand vous donnez 100 euros, par exemple
Alors, quand on donne 100 euros, alors pour les... il y a deux types de réduction d'impôt, c'est ce qu'on appelle un peu le mécénat, entre guillemets.
On donne 100 euros au petit prince, prenons, voilà,
un bon exemple par exemple. Les petits princes, puisque l'ordre des experts comptables favorise les petits princes, et l'a fait encore il y a moins d'un mois, le 12 avril, en participant, en co-organisant les foulées d'Orléans.
Ouais.
Et donc, on a pu remettre un chèque de 5000 euros au petit prince, comme on avait remis ensemble.
Gros succès,
Pascal,
objectif atteint. Voilà. Ouais.
Exactement.
Comme on l'avait fait au Château de Blois l'année dernière.
En 2013, tout à fait. Donc, si on donne 100 euros et qu'on est un particulier, on a droit à un crédit d'impôt de 66 euros. Et si on est une entreprise, on a droit à un crédit d'impôt de 60 euros. Voilà, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises.
Donc c'est intéressant, quoi. Donc 100 euros, ça revient finalement qu'à 30 euros. Donc.
Voilà. Et ça permet d'aider des associations et des gens qui sont dans le besoin, ou la recherche médicale, c'est quand même... ou d'aider en ce moment, comme c'est d'actualité, les associations qui aident en faveur
du Népal.
Du Népal,
ouais,
tout à fait.
Par exemple, donc c'est important. Mais il faut se renseigner que ces associations soient bien reconnues, agréées. Hein, donc,
de toute façon... Elles vous remettent un reçu fiscal qui vous prouve comme quoi le don est bien déductible.
On le reçoit à la fin de l'année, en principe.
Normalement, ils vous le font tout de suite, une fois que le don est versé, on vous renvoie dans la foulée.
D'accord.
Ou quand vous allez le déposer à l'association, on vous renvoie le reçu fiscal.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres réductions d'impôts, crédits d'impôts significatives, donc, à signaler? Bon, pour le particulier, hein, essentiellement, ce matin.
Alors oui, il y en a un qui est très important, ce sont les dépenses réalisées pour l'équipement de l'habitation principale. Donc dès lors que vous faites des travaux dans votre habitation, certains travaux peuvent vous ouvrir droit à des déductions, c'est notamment, je pense, l'installation d'un poêle pour le chauffage. Ou il y a toute une liste limitative qui a été rédigée par l'administration fiscale, qui est consultable. Donc certaines dépenses peuvent ouvrir droit un crédit d'impôt. Et c'est quand même une partie qui est très complexe, puisqu'il faut répondre à un certain nombre de conditions, mais c'est quelque chose qui change souvent. L'année dernière, il fallait réaliser un bouquet de travaux pour bénéficier du crédit d'impôt.
C'est-à-dire plusieurs travaux différents.
Voilà, plusieurs travaux différents, dans des de natures différentes. Si vous réalisiez plusieurs travaux respectant les conditions prescrites par l'administration fiscale, vous aviez le droit au crédit d'impôt. Là, ça a changé, puisque depuis le 1er septembre 2014, il n'est pas nécessaire de réaliser le bouquet de travaux pour bénéficier du crédit d'impôt. En plus, ce qui est complexe, c'est qu'en fonction des travaux, c'est pas les mêmes taux. En fonction de la période de réalisation, c'est pas les mêmes taux. Puisqu'à compter du 1er septembre 2014, c'est 30%. Du 1er janvier au 30 août, c'est 25%. Enfin, tout ça, c'est une bonne usine à gaz. Donc, c'est très compliqué. Mais pensez surtout à cibler les dépenses que vous avez pu faire au cours de l'année, qui peuvent ouvrir droit à certaines déductions fiscales.
Voilà. Donc oui, depuis le premier... Alors là, l'administration a quand même clarifié la situation, puisque on est quand même, il faut le rappeler, encore en période de... Alors je ne sais pas si c'est la crise, la mutation, mais voilà, l'activité économique est
en
quand
fait,
même difficile.
Le bâtiment a besoin qu'on fasse des travaux.
Même si dans les cabinets d'expertise comptable, on va donner quand même une petite note optimiste, même si le temps aujourd'hui est un peu couvert, l'activité a l'air de frémir un
moins,
petit peu.
Vous avez remarqué.
J'ai remarqué. L'activité est en train de frémir un petit peu, alors j'espère que c'est pas comme on a connu au mois de septembre ou octobre, où il y avait la reconstitution des stocks à faire et où l'activité avait un petit peu repris. Là, on sent que dans le bâtiment, ça frémit un peu, l'industrie aussi, donc j'espère qu'on est sur la bonne voie et que ça va continuer.
Donc, vous nous dites ça par rapport à ce que vous constatez
dans les bilans qu'on vient d'arrêter.
Les bilans, vous êtes en train
de sortir.
Vous êtes quand même des sacrés observateurs, donc la situation.
On est les premiers relais sur le terrain, donc les bilans. Alors
tout n'est pas noir. Donc
tout n'est pas noir. Je parle dans la globalité. Les bilans sont plutôt pas mauvais et conformes à ceux de l'année dernière. Par contre, Ce qui est un petit peu plus difficile pour nos entreprises aujourd'hui, c'est leur trésorerie. Et donc la situation de trésorerie s'est dégradée. Et puis nos amis banquiers, vous savez Pascal, j'aime bien les titiller un petit peu.
En plus, vous êtes vrais amis. Donc
j'ai des vrais, oui, tout à fait. Banquiers. Et non, mais les banquiers jouent pas forcément tout le temps le jeu. Alors je sais, peut-être s'il y en a qui écoutent, ils vont me dire que c'est pas vrai, mais j'ai des cas concrets à leur soumettre et on va voir ce qu'on peut faire ensemble puisque on a des artisans ou des commerçants qui ont des autorisations de découvert et du jour au lendemain, quand on a 10 000 euros ou 20 000 euros pendant 10 ans et puis du jour au lendemain, on coupe le robinet parce que Bâle 3, le fameux mot magique des banquiers, ils se retrouvent dans la difficulté et ont du mal à...
c'est la solvabilité. Hein,
voilà, c'est la solvabilité des banques.
Ouais, pouvoir donc, honorer leurs engagements.
Voilà.
Ouais. Donc voilà, c'est plus difficile. Tout ça pour dire, c'est pas uniquement pour faire plaisir aux contribuables, mais en quelque sorte des incitations fiscales pour soutenir parfois donc des secteurs de l'économie, dont le bâtiment, par exemple.
Et donc l'administration a dit, on arrête, comme vient de vous expliquer Coralie, les taux à 15%, 25%, les bouquets. Maintenant, vous faites une dépense qui est éligible. Alors il y a des critères bien spécifiques, hein, mais vous avez droit à 30%. Sur les travaux que vous allez
toutes
réaliser.
Toutes les dépenses liées au métier du bâtiment ne sont pas éligibles.
Ah non, c'est des dépenses relatives à l'énergie. Alors donc, quand vous faites remplacer vos fenêtres, mais il faut faire attention parce que, vous savez, il y a les histoires de kilojoules, il faut respecter une certaine catégorie de kilojoules. La chaudière, il faut qu'elle soit à condensation, il faut que ça soit... C'est très technique, donc même les artisans déjà ont du mal à
s'y retrouver. Si on change son portail électrique, ça rentre pas forcément dans les critères.
Non.
D'accord.
Mmh. Donc pour réaliser des travaux dans le cadre du développement durable et voilà pour tout ce qui est énergie, dépenses de chauffage,
d'isolation,
enfin dans tous les bons salons de l'habitat par exemple et auprès de tous les bons professionnels, on a tous ces renseignements.
Oui,
c'est important finalement d'y réfléchir aussi en amont. Hein. Donc
oui, parce que on parle des réductions ou des crédits d'impôt pour payer moins d'impôts, mais il faut quand même penser qu'on aura quand même fait la dépense initiale pour pouvoir faire l'isolation ou la rénovation de sa maison. Donc il faut quand même, pour pouvoir bénéficier, je veux dire, entre guillemets, intelligemment du crédit d'impôt, il faut que ça soit une dépense utile à l'habitation. Il ne faut pas faire une dépense pour dire je vais avoir droit à un crédit d'impôt.
Il est déjà 9h58, c'est marrant, c'est la première fois qu'on parle d'impôt sans qu'on ait l'impression que ça dure une éternité, quoi, sans trouver le temps long. Donc bon, c'est bien, c'est qu'on
c'est
donne pas
une bonne chose.
D'informations. Alors comme l'horloge tourne malheureusement, et en rappelant que le 12 mai, donc à la mairie de Blois, vous serez présent donc pour répondre aux questions des particuliers, parce qu'on voit bien qu'il y a des situations générales, mais beaucoup de situations particulières. Est-ce qu'en conclusion, il y a un ou deux conseils à donner pour que cette période se passe bien? Petite astuce, peut-être?
Bon, il n'y a pas forcément de petite astuce. La petite astuce, c'est de venir le 12 mai de 9h à 19h à la mairie de Blois. Les experts comptables seront à votre disposition et auront du temps à vous consacrer, puisque je sais que beaucoup de contribuables vont au centre des impôts, mais ils sont un petit peu débordés en cette période. Donc venez voir les experts comptables, ils sont à votre disposition. Ils seront là toute la journée et ils prendront le temps de vous écouter. Non, et surtout s'entourer d'un conseil et puis ne pas stresser pour cette déclaration d'impôt, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Il faut rien oublier, il faut bien penser à tout déduire. Donc venez voir un expert comptable. Utilisez le site, le simulateur sur impots.gouv.fr qui vous permet quand même...
Il est bien ce simulateur.
Oui, il est très bien,
ouais. Ouais, vous savez, ce qui est le plus récent, c'est pas forcément de déclarer, c'est de payer après.
Mais ça, c'est plus tard, c'est quand on revient de vacances.
Ouais, voilà, c'est à partir du mois de septembre.
Voilà, on oublie. Voilà.
Voilà, on oublie. Ouais, mais sauf qu'on revient de vacances.
Exactement.
Bon, bah, bonnes vacances alors.
Merci.
Merci Coralie Cotineau, merci Christophe Priem d'être venu ce matin.
Pascal.
Bon, éclairer un petit peu la voie de la déclaration de revenus. On note ce rendez-vous le 12 mai à la mairie de Blois. Bonne journée, à très bientôt.
Bonne journée, merci Pascal.
Bonne journée, au revoir.